enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà fait l'expérience, on pourrait dire c'est une très mauvaise expérience, d'avoir perdu quelque chose qui vous est précieux. Puis on est là, puis on cherche, puis on fouille, ça n'a pas de bon sens. Justement, notre voisine qui est à côté de chez nous, elle a perdu, imaginez, un trousseau de clés. Elle a des clés d'espace, mais dans ce trousseau-là, elle avait des clés qui débarrent des choses dans la maison, comme son coffre et des choses personnelles. Ça fait un mois qu'elle cherche ses clés. Puis encore hier au soir, elle était à Carpath dans son auto. Elle, ça fait 10 fois que je la regarde dans l'auto, mais tout à coup, j'ai pas. Puis elle avance les autres, le siège, puis elle regarde en dessous des banquettes, puis la valise, puis vraiment, elle cherche ses clés. Sont précieuses pour elle, puis elle a besoin de ses clés. Alors, vous savez que Dieu a perdu de quelque chose ici qui lui est précieux. Il a perdu quelque chose, allez, ben là, voyons, vraiment, ce que Dieu peut avoir perdu quelque chose, c'est lui qui a tout créé, il est au courant, on dit même que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe sans qu'il le sache. Alors, comment est-ce qu'il peut avoir perdu quelque chose? Mais oui, imaginez qu'il a perdu quelque chose. Et ce qui m'amène au titre de mon message de ce matin, c'est que Dieu veut ravoir sa création. C'est ça qu'il a perdu, il veut la récupérer. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que la chose la plus importante pour Jésus, quand il était sur cette terre, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, de faire la volonté de son Père. On lit dans Jean 4, je vous demanderai pas de tourner. Quand je vais vouloir que vous tourniez une référence, je vais vous le laisser savoir. Mais on peut juste écouter pour l'instant. Alors, dans Jean 4, le verset 34, ça nous dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Imaginons, Jésus se nourrissait littéralement de la volonté de son Père. Ses pensées, son cœur, sa vie entière étaient imprégnées au point qu'il dit, c'est ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que Jésus connaissait son but ultime. Il connaissait sa mission. Il savait pourquoi il était venu ici-bas. Il savait qu'il était venu chercher ce qui était perdu. Luc, le chapitre 19 et le verset 10 nous dit, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et Matthieu 9, 12 nous dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Ce sont eux qui ont besoin d'un sauveur, si vous voulez. Alors, on se souvient peut-être, pour nous qui sommes plus familiers avec la parole de Dieu, on se souvient dans les évangiles de la parabole des 99 brebis. Là qu'on a 99 brebis toutes grasses, toutes belles, pleines de laine, peut-être prêtes à manger aussi, pour ceux qui aiment l'agneau. Mais en tout cas, ils étaient en santé, ces brebis-là. Ils étaient tellement bien que le Seigneur lui a dit, ben là, on va les laisser les 99. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à la recherche d'une brebis perdue. Voilà le cœur de notre Père. Il n'était pas satisfait de voir qu'il y en a 99 là, qui sont bien, qui se portent bien, qui bêlaient, puis ils faisaient toutes leurs affaires. Mais non, lui, il cherchait celle qui est perdue. Alors, ça nous démontre le cœur de notre Père. Alors, il a dit, vous allez laisser les 99 brebis pour aller à la recherche d'une brebis, parce que c'est elle qui est perdue. Ça ne me donne pas assez de joie d'avoir les 99, ça m'en prend 100%. Ça me prend toutes mes brebis, autrement je ne suis pas satisfaite. Alors, en principe, vous savez, les 99 brebis auraient dû être après intercédées pour celles qui étaient perdues. Souvent, nous, dans notre confort, on vient dans notre zone de confort, on bêle, parce que la parole de Dieu nous appelle des brebis aussi. Alors, on fait notre bonhomme de chemin, on est heureux, on est content, on est rempli de sa joie, puis c'est correct, le Seigneur veut qu'on soit en bonne santé spirituellement parlant aussi. Mais on devrait être comme l'attitude de notre Maître, comme Jésus, puis être aux aguets de cette brebis-là qui est perdue. Donc, les 99, en principe, auraient dû être dans l'intercession, puis dire, « Hey, ça ne marche pas, là, il en manque une. » Il m'a fait compter, ben oui, le 99, il en manque une. Hey, on va prier, puis le maître va trouver cette brebis-là. Puis on dit que quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules, puis il la ramène avec grande joie. Alors, une seule brebis perdue pour lui et retrouvée, ça vaut plus que n'importe quoi. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Alors, on s'imagine que cette brebis-là, à quel point elle est importante pour Jésus. savez que le Seigneur Jésus, vous savez comme moi, qui était intelligent. Il avait déjà toutes les choses de planifier pour nous. Parce qu'il sait qu'à quel point que l'homme est facilement distrait et faible aussi. Et tu pas amènes trop vite les femmes, parce que quand je dis les hommes, ça inclut les femmes aussi. La parole de Dieu, quand ça parle de l'homme, ça parle de la femme aussi. Alors, ça nous inclut. Alors, ça inclut les hommes et les femmes. La parole nous dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. On sait que du temps de Jésus, quand il était sur la terre, physiquement ici sur la terre avec ses disciples, que même ceux qui étaient le plus près de lui, on sait que Jean, par exemple, c'en était un disciple qui était très près de Jésus, mais même eux qui étaient près de Jésus ont parfois dévié de leur course. Ils ont cédé même à des désirs charnels. Des fois, on se rappelle, des fois qu'ils voulaient faire tomber le feu du ciel. Ils auraient voulu que le Seigneur punisse immédiatement ceux qui le désobéissaient. Et ils étaient tannés, des fois, des enfants. Ils voulaient les renvoyer, envoyer sa marmaille-là. Là. C'est dérange, là. Voyons, on venait à la chambre, il n'est pas le maître, il est fatigué. Là. Laissez-les tranquilles. Puis là, les autres, ils la mettent de l'ordre dans tout ça. Alors, on sait à quel point qu'on peut être facilement distrait. Ça peut être des choses qui nous distraient aussi, qui sont légitimes. Pas forcément des choses mauvaises qui vont nous distraire, mais la distraction est là. Et surtout avec la belle saison estivale qui nous arrive. Bon, on a gelé tout l'hiver, on a été en cabanée tout l'hiver, et on a le goût de prendre l'air, on a envie d'être dehors et faire de l'exercice et ainsi de suite. Et ça, c'est bien, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est correct. Mais il ne faut pas être distrait, il ne faut pas se laisser non plus distraire tellement par les choses qui nous entourent, par notre travail, par notre famille, par toutes les choses qu'il y en a continuellement, des choses pour nous distraire, n'est-ce pas? On peut être distrait 24 heures par jour, si on veut, même dans notre sommeil. Alors, il ne faut pas laisser ces choses-là nous distraire au point qu'on n'est plus capable de regarder et puis de chercher pour cette brebis-là qui est perdue. Alors, comme je dis, vu que Jésus était intelligent, il savait ce qu'il faisait. Avant de son ascension au ciel, il nous a envoyé pas moins que la merveilleuse personne du Saint-Esprit. On peut s'imaginer là l'état de ses disciples et les apôtres qui ont marché 3 ans avec lui. Ils ont été avec le maître, ils l'ont vu physiquement, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu faire des choses grandes. Et puis voilà qu'il est ressuscité, puis voilà qu'il allait partir. On peut s'imaginer la confusion et la panique quasiment de dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a marché 3 ans avec le maître, puis là, il s'en va. Alors Jésus dit, oui, vous êtes avantageux que je m'en aille auprès du Père. N'inquiétez-vous pas, je ne vous laisserai pas, Félin. Je vous laisserai pas tout ça. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Et lui va être avec vous pour toujours. Alors ce consolateur-là, qui est la personne du Saint-Esprit, nous est envoyé pour un but. Il nous est envoyé pour un but précis. Il veut qu'on lui donne, il voudrait que chaque croyant, chaque chrétien, qu'on lui donne la permission, si vous voulez, de nous posséder entièrement. C'est-à-dire qu'il veut qu'on lui appartienne sans réserve. Il veut qu'on soit à lui de tout cœur, esprit, âme et corps. Jésus a dit, vous recevrez une puissance après que vous aurez été remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors, on voit que le premier but, la raison primordiale d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être ses témoins. Il y a des bénéfices après ça. C'est-à-dire qu'on s'édifie soi-même, c'est-à-dire qu'on prie des mystères dans l'Esprit. On accomplit des choses qu'on ne pourrait pas accomplir autrement. On peut prier pour tous les saints, parce qu'on ne les connaît pas tous, là, les saints partout dans le monde entier. Mais en priant dans l'Esprit, on peut intercéder, on peut supplier pour ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Chine, en Afrique. Alors, il y a de grands bénéfices. On se bâtit soi-même en priant dans l'Esprit. Mais le but primordial pour lequel le Saint-Esprit est envoyé, c'est pour que nous soyons des témoins puissants. Donc, on se souvient que dans la chambre haute, les 120 qui étaient là, il était peut-être affolé, là. Il y avait peut-être barricadé, il ne voulait pas se faire voir, là. Leur maître a parti, Jésus a parti, puis là, c'est comme, on est tout seul, mais Jésus leur a dit, ne quittez pas ce lieu-là avant d'être rempli du Saint-Esprit, parce qu'ils savaient que ça leur prendrait une puissance surnaturelle pour continuer l'œuvre qu'il avait débutée avec eux. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Actes, le premier chapitre et le verset 8, on va lire plus précisément, le verset dans son entièreté pour aller en chercher le sens. Donc, c'est Actes, l'épître de Actes, le chapitre 1 et le verset 8. On lit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit qu'ils ont reçu une puissance pour être des témoins. Alors, on voit que sans cette puissance-là, ils n'étaient pas capables d'être des témoins efficaces. Puis, on voit que le mandat s'étend jusqu'à nous, l'Église d'aujourd'hui, parce que de leur temps, de leur vécu, on sait bien que les apôtres n'ont pas atteint les extrémités de la terre. Géographiquement parlant, il n'y avait pas, la planète Terre n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les pays, tous les continents qu'on connaît aujourd'hui. Et s'il y a des gens ici qui connaissent l'histoire, vous savez très bien que ce n'est pas l'apôtre Paul qui a découvert le Canada. Alors, ce qu'on n'a pas rendu jusqu'ici. Alors, il nous a donné le mandat à nous de continuer de faire ce qu'ils ont commencé dans leur temps. C'est-à-dire d'aller jusqu'aux extrémités de la Terre. Alors, nous voici dans notre Canada, dans notre Québec, et le mandat, donc, c'est à chacun de nous, chacun de vous, de continuer de faire ce qu'eux ont débuté au début. Alors, on sait que il y avait cette puissance. Ils ont été revêtus de cette puissance que la parole de Dieu nous dit pour être des témoins efficaces. On va regarder un peu comment ce que Jésus opérait, lui, de son temps, quand il était sur la terre. Vous allez dire, ben là, oui, écoute, c'était Jésus, là, quand même. C'est le Fils de Dieu. Oui, en effet, il était le Fils de Dieu. Il est toujours, il n'a pas changé. On sait qu'il avait l'esprit sans mesure. Là, vous allez peut-être penser, ben oui, mais là, Jésus faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait, avec qui il voulait. C'était lui, le maître, là, il décidait. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Si on regarde dans Actes, on est déjà dans Actes, tournez avec moi au chapitre 10, le verset 38, et on va voir clairement comment Jésus opérait de son ministère sur la terre, du temps qu'il était ici sur la terre. Donc, c'est Actes, chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, on pourrait dire de puissance. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, voilà comment Jésus opérait. Il ne faut pas oublier qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa divinité. Quoiqu'il était le Fils de Dieu, il était 100% divin, il était aussi 100% humain. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a laissé la gloire qu'il connaissait auprès de son Père pour venir se revêtir d'une nature comme nous. Sauf qu'il n'a pas connu le péché, mais il a connu les limitations de l'être humain. Jésus a goûté à la faim. Il a goûté à la fatigue. Il a goûté à la trahison. Il a vraiment revêtu notre nature pour être capable de comprendre comment nous on fonctionne ici-bas. Alors, il avait besoin de pas moins que nous pour accomplir l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé. C'est-à-dire, il avait besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on dit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Alors, sans cette onction de puissance, sans cette présence du Saint-Esprit qui était avec lui, il n'aurait pas pu accomplir son ministère terrestre comme il était appelé à le faire. Alors maintenant, ce même esprit qui était sur lui, qui était en lui, il était sur ses disciples maintenant. Il était sur eux, parce qu'à la Pentecôte, ils ont reçu. C'est là que l'église du bercail a commencé. La première église a commencé là, à la Pentecôte. Alors, on sait que ce Saint-Esprit-là, le dit, qu'il est envoyé pour nous, les croyants, pour qu'on lui cède notre cœur, qu'on lui donne notre volonté complètement, pour que lui puisse avoir et faire ce qu'il veut en nous, à travers de nous et par nous. Alors, ça serait normal que chaque chrétien, qu'on puisse goûter la paix du Saint-Esprit, la force qui nous est disponible, la direction aussi. C'est pas normal qu'un chrétien n'ait pas la direction quand il y a le Saint-Esprit en lui. Quand on est rempli du Saint-Esprit, la direction, on est supposé d'avoir de la direction, ainsi que la puissance de l'Esprit. Parce qu'on a dit au début que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons des témoins puissants pour lui. Alors, c'est disponible pour chaque croyant, mais ça va aller selon la mesure qu'on est ouvert au Saint-Esprit. Ça va aller en proportion de votre sensibilité à lui et de votre désir de céder votre vie à lui, de céder votre volonté à lui totalement pour qu'il puisse accomplir tout ce qu'il veut faire en vous et à travers de vous. Alors, c'est disponible pour chacun, chaque croyant. Et c'est malheureux de voir des enfants de Dieu qui se privent de leurs droits, qui se privent de leurs privilèges. On se prive de des choses qui nous appartiennent. Pourquoi? Parce que soit qu'on est ignorant ou soit qu'on a passé nos cœurs sensibles à Dieu, sensibles à son Saint-Esprit. Alors, on va le laisser travailler en nous et va accomplir ce qu'il veut faire à travers de nous. Donc, l'Église du bercail, c'est comme ça qu'elle opérait. Elle opérait par la puissance du Saint-Esprit. Quand ils ont été revêtus, ils ont arrêté d'avoir peur. Ils ont quitté la chambre haute, puis ils ont sorti. Puis là, ils ont été des témoins puissants. On voit que les signes et les miracles les accompagnaient. Ils mettaient les mains sur les malades étaient guéris. Il y avait toutes sortes de choses. Le même ministère que Jésus faisait de son temps terrestre, là maintenant, les apôtres le faisaient. Et ça se perpétue jusqu'à nous parce qu'on a vu que c'est pour les extrémités de la terre. Donc, si on doit rejoindre les extrémités de la terre, on pourrait conclure que le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit n'était pas limitée aux apôtres parce qu'ils n'ont pas pu rejoindre les extrémités de la terre. Voyez-vous le parallèle? Comment c'est important de bien comprendre la parole de Dieu parce que des fois, on entend dans certains milieux qui vont dire, mais ça, c'était dans le temps des apôtres. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Si c'était bon pour eux à l'époque, ils avaient besoin de cette puissance-là pour témoigner. On n'a pas besoin de moins. On voit que Jésus était loin du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de son Père. Alors, on n'a pas besoin de moins que ça aujourd'hui pour rejoindre les extrémités de la terre, cette merveilleuse puissance, cette merveilleuse présence qui est celle de notre Saint-Esprit. On sait que Dieu cherche encore aujourd'hui des personnes comme ça. Il cherche des personnes aujourd'hui qui veulent être remplies de lui, qui veulent se laisser remplir par lui, être consumées totalement par son plan. Voilà son but. Voilà pour lequel il nous a envoyé cette personne merveilleuse du Saint-Esprit. Qu'on laisse nos cœurs complètement consumés par son plan. Alors, il va nous montrer des choses. Vous savez, Dieu veut secouer. Il veut réveiller son Église. Il veut qu'on cesse d'être satisfait avec les choses telles qu'elles sont dans notre vie, dans nos vies. Trop souvent, on se satisfait du médiocre. On se satisfait des choses qu'on voit. On met notre attention sur les choses qu'on voit. C'est correct. Je ne suis pas prêt à vous dire de laisser votre travail ce matin, puis de tout flusher là, puis de tout mettre de côté, puis là, toujours les mains dans les airs. Non, il faut être pratique. Je ne suis pas prêt à vous dire de laisser votre travail. Je ne suis pas prêt à vous dire il y a des choses, il y a des tâches quotidiennes qu'on doit accomplir. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit satisfait des choses telles qu'elles sont dans nos vies, parce qu'il veut changer nos priorités. Il ne veut pas forcément changer notre position. Mais il veut changer nos priorités jusqu'à ce que notre première priorité soit d'accomplir le travail qu'il a donné à l'Église. Celui qui est d'aller vers ceux qui sont perdus, parce qu'on a parlé de cette brebis-là. Une seule brebis qui était perdue, on a laissé 99 de côté pour aller vers cette brebis-là qui est perdue. Matthieu 28, le verset 19 nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, le Seigneur Jésus veut qu'on soit comme lui. Il veut qu'on ait un cœur de berger comme lui, qu'on aille vers ceux qui sont perdus comme ça, à la recherche de la brebis perdue. Peut-être que ce n'est pas pour les mères, peut-être où il y a des personnes qui sont loin pour aller comme ça vers l'évangélisation masse, là, qu'on dit, pour aller chercher les multitudes, les fois. Mais il faut toujours être aux aguets de cette brebis-là qui est perdue. Alors, voilà le cœur de notre Seigneur. Il veut qu'on soit comme lui aussi. Donc, si on voit la grandeur du besoin, forcément, c'est à cause de ce grand besoin-là, ça devrait créer chez nous l'initiative d'être alerte. Si on est constamment aux aguets de la brebis perdue, on regarde, on dit, Seigneur, je veux trouver la brebis qui est perdue. Parce qu'on a dit au début que Dieu a perdu quelque chose qui lui est précieuse. Il a perdu sa création. Puis il veut que nous l'aidions à la retrouver. Alors, ça va créer chez nous l'initiative d'être alerte. Vous savez qu'on est dans les jours derniers. Même les apôtres de leur temps disaient que ça ne serait pas long, mais que le Seigneur revienne. Alors, on ne sait pas, c'est peut-être une question d'heure, de jour, de semaine, quelques mois, quelques années. Mais vous savez, quelques années, à comparer à l'éternité, c'est vraiment comme une goutte d'eau dans l'océan. Alors qu'on soit toujours à... Que nos pensées, que notre cœur soit dirigé vers les choses qui sont éternelles. Parce qu'on peut accomplir des exploits sur la terre. Dieu n'a pas rien contre ça, là. Qu'on s'instruise, qu'on aille chercher des diplômes, qu'on ait une bonne position sur la terre. Capable d'élever nos enfants, capable de pourvoir pour eux. Il n'y a pas de mal là-dedans. Mais notre priorité devrait être des gagneurs d'âmes. Pourquoi? Parce que c'est les seules choses qu'on va emmener au ciel avec nous. Ce sont les choses qui sont éternelles. Tout le reste est passager. Qu'on ait le luxe, qu'on ait des belles maisons, des belles voitures, puis il n'y a pas rien de mal à ça, parce que Dieu veut nous prospérer. Mais les choses qu'on va apporter auprès de lui, ce sont les âmes éternelles. Ce sont les choses qu'on ne voit pas, les choses qui sont, ce sont elles qui sont éternelles. Les choses qui périssent pas, ce sont les âmes. Les choses que le Seigneur va nous demander au ciel, c'est qu'est-ce que tu as fait de la brebis perdue? As-tu été à la recherche? Est-ce que tu étais conscient qu'il y avait dans ce monde, qu'il y avait des brebis perdues? Qu'est-ce que tu as fait pour les rejoindre? Alors, il veut que notre premier but, notre priorité, c'est que nous soyons des gagneurs d'âmes. Le Seigneur, comme j'ai dit, après élevé une armée de croyants aujourd'hui, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Pourquoi? Parce que son retour est pour bientôt. Son retour est imminent. Ça veut dire qu'il va venir. C'est certain. C'est sûr et certain. Ses promesses sont oui, amen. Il a dit qu'il va revenir et le Seigneur il revient bientôt. Il vient pour chercher une épouse glorieuse, sans rides, sans tache. Alors, si on veut hâter sa venue, on peut le faire, vous savez. Si on est tanné d'être ici-bas et on trouve ça long, on peut hâter sa venue en allant chercher cette brebis qui est perdue. Parce que c'est quoi qui retarde le retour du Seigneur Jésus? C'est qu'il veut qu'il y ait au moins une personne qui va le représenter au ciel, un représentant de chaque tribu, de chaque nation. Alors, tant et aussi longtemps que tout le monde sur toute la terre n'aura pas entendu au moins une fois l'Évangile, le Seigneur Jésus ne reviendra pas. Alors, si on veut hâter son retour, on est à la recherche de cette brebis qui est perdue. Alors, il faut mettre nos priorités à la bonne place. Et notre première priorité, ça devrait être la propagation de l'Évangile. C'est-à-dire de faire connaître Jésus, son œuvre rédemptrice. Un monde qui est perdu. Ça devrait être ça vraiment le but de notre vie. Ça devrait être ça vraiment qui nous anime. Ça devrait être ça notre battement de cœur. Parce que Dieu nous a fait à son image. Il voulait une grande famille. Le Père ne se contente pas d'en avoir une poignée dans le ciel. Il veut une grande famille. Alors, il veut qu'on soit à la recherche de cette brebis-là qui est perdue. Alors, il faut aller de l'avant. Il faut s'instruire, il faut connaître la parole de Dieu, il faut se mettre au courant des bons versets qui vont parler du salut, connaître des versets pour être capable de les transmettre à d'autres aussi. Il faut être dans la prière aussi. Il faut vraiment qu'on aille de l'avant. Le temps est court, mais on peut le racheter le temps. On a peut-être perdu du temps beaucoup, oui, mais on peut racheter aujourd'hui le temps. En disant, Seigneur, nous voici, on va accomplir ce que tu veux que nous fassions. Souvenons-nous des premières paroles d'instruction que Jésus a données à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Les premières paroles qu'il leur a dit. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il marchait le long de la mer, il arrêtait vers quelqu'un. Il arrêtait vers un pêcheur, puis il disait, laisse-les là ton filet. Laisse tout ça derrière toi, suis-moi et maintenant je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Et ses dernières paroles, juste avant l'ascension, juste avant qu'il s'en aille au ciel, s'asseoir à la droite du Père, qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Alors, la chose que Jésus voulait que ses disciples, il voulait imprégner dans leur cœur, la chose qu'il voulait qu'ils se souviennent au-delà de tout, c'était l'importance d'aller vers ceux qui sont perdus. Et malheureusement, aujourd'hui, on pourrait dire que la majorité de l'Église, et quand je parle de l'Église, je parle pas forcément de notre Église locale, je parle de l'Église universelle. En général, on oublie les paroles de Jésus. Vous savez, on entend, on évite à entendre, mais on évite à oublier aussi. Il a dit les premières paroles, « Suivez-moi, je vous pêcheur d'homme. » Et la dernière parole, juste avant qu'il s'en aille dans la gloire. Qu'est-ce qu'il a dit? « Allez vers ceux qui sont perdus. » Alors, ça devrait être aussi le battement de notre cœur. Ça devrait être le désir de nos cœurs. Mais l'Église en général, l'Église, on s'est plutôt préoccupé de nos besoins. On est devenu une Église introvertie. On a fixé beaucoup notre attention sur la chute d'Adam. Hein, qu'on a entendu parler de la chute d'Adam, tout ce qui est arrivé là, les répercussions sur l'humanité. C'est certain que ça a eu des grandes répercussions sur l'humanité. Parce qu'on sait que le péché a engendré la désobéissance. C'est par la désobéissance, ça a engendré la maladie, ça a engendré la pauvreté, la mort. Ça a fait le monde qu'on connaît aujourd'hui. Un monde qui est dépourvu de sens. Un monde qui est errant, qui s'en va à droite. Même la parole nous dit que même la création soupire. Même les animaux. Tout est brisé. Tout ce que Dieu a créé de si beau, de si merveilleux est tout brisé. C'est tout atteint par le péché. Alors, on a mis tellement notre attention sur la chute d'Adam qu'on a oublié le reste, on a oublié les premières paroles de Jésus ainsi que la dernière. C'est vrai qu'Adam a été séparé de Dieu. C'est vrai qu'il a connu la mort spirituelle. Tu as perdu aussi le droit de régner. Parce que si on se situe un petit peu dans la Genèse, on se rappelle qu'Adam et Ève étaient dans le jardin et que là, tout était beau. C'était la perfection. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas rien de malheureux. Là. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait rien. Là. Il était dans la perfection. Il avait aussi reçu le droit de régner dans ce fameux jardin. Dieu leur avait donné à tous les deux le droit de régner. C'est eux qui ont nommé tous les animaux. Ils régnaient littéralement en roi et maître dans ce jardin-là. Alors, on a mis beaucoup d'emphase sur la perte. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont perdu? Qu'est-ce que ça a apporté à nous, maintenant, l'humanité? Mais vous savez que le plus grand perdant là-dedans, ce n'était pas Adam. Mais c'était Dieu. C'était Dieu qui était le grand perdant. Parce que lui, il avait créé Adam pour marcher avec lui. C'était pas l'idée d'Adam d'être créé. Il n'a pas demandé, lui-là, d'être créé. Il n'avait pas la foi non plus d'être créé. C'était l'idée de Dieu. C'était le choix de Dieu. C'est Dieu qui voulait avoir une création qui lui ressemblait. Il n'était pas satisfait qu'il y avait toute la beauté du jardin, les fruits en abondance, les légumes. Tout était verdoyant, tout était beau. Il y avait les anges dans le ciel pour l'acclamer, le louer. Mais Dieu n'était pas encore satisfait. Tant qu'il n'avait pas créé une création à sa ressemblance, quelqu'un avec qui il pouvait s'identifier, quelqu'un avec qui il pouvait marcher, avec qui il pouvait communier, avec qui il pouvait parler. Alors imaginons la peine que Jésus, que le Père a eue quand sa création a été séparée de lui par le péché. Alors on voit qu'il avait créé Adam et Ève, il les avait créés pour marcher, pour parler, pour communier avec Dieu. Alors, quand Adam et Ève ont chuté, ils ont été séparés de Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Mais le plus grand perdant là-dedans, c'était vraiment Dieu. C'était vraiment le Père qui perdait sa famille. Il perdait ce qu'il y avait de plus précieux. Il perdait sa création à qui il avait donné la vie, à qui il avait donné le droit de régner sur les belles choses qu'il avait faites. Il a souffert cette perte-là. Mais aujourd'hui, il veut la récupérer, sa création. Il a perdu quelque chose de précieux, c'est-à-dire des âmes. Alors, si vous voulez vraiment rendre Dieu heureux, si vous voulez vraiment lui faire plaisir, il faut lui ramener ce qu'il a perdu, ses âmes précieuses, cette créature-là qu'il a créée à son image. C'est pour ça que la parole de Dieu toujours pointe nos regards vers la croix. Parce que c'est là que Jésus est mort pour nous. C'est là qu'il a versé son sang pour nous racheter de nos péchés. Alors, nos regards sont continuellement portés vers la croix. C'est par cet acte de rédemption que Dieu a récupéré le droit légal à sa créature. Parce qu'on sait qu'à cause du péché, Dieu ne pouvait plus regarder sa création de la même façon. Il était hors communion avec lui, il était mort littéralement. Tu ne peux pas communier avec un mort. Alors, si ça aurait pas été de Jésus, si ça aurait pas été du sang précieux de Jésus qui était versé au calvaire, on serait encore dans cet état-là. Un état de mort spirituelle. Une coupure qui était éternelle avec Dieu. Mais à cause de Jésus, à cause de son acte de rédemption, à cause de son grand amour, Dieu le Père a retrouvé le droit. Communier avec sa créature. Alors, si on veut trouver le vrai sens à votre vie chrétienne, vous voulez trouver des fois, on est là et on se demande pourquoi je vis, pourquoi est-ce que j'existe. Si vous cherchez le sens vraiment à votre vie, c'est de mettre vos priorités d'être des gagneurs d'âme. Comme j'ai dit, c'est correct d'avoir d'autres choses dans notre vie. Dieu n'est pas contre ça. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on arrange nos priorités pour que notre première priorité, numéro un, soit que nous soyons des gagneurs d'âme, que nous soyons aux aguets, à la recherche des brebis perdues, de la brebis perdue. Il y a des brebis perdues dans Drummondville qui aujourd'hui pleurent, sont désespérées, sont vraiment sans berger, puis on a la vérité. On n'a pas le droit de garder la vérité captive. Alors on doit se laisser remplir du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il imprègne tellement nos cœurs que l'amour que Dieu a pour les âmes, il va la mettre dans nos cœurs. Il va déverser son amour, sa compassion dans nos cœurs pour ceux qui sont perdus. Alors si vous voulez vraiment lui faire plaisir, c'est pas de jeûner jusqu'à temps qu'on soit squelettique. Pas de faire des neuvaines, des prières à répétition. Si on veut vraiment faire plaisir à notre Père, parce qu'on est fait à son image, on veut lui ressembler, c'est que nous soyons des gagnants et des gagneuses d'âme. Il faut trouver notre place, parce que c'est certain que Dieu n'a pas donné les mêmes dons, les mêmes talents à tous. Quoi qu'on est tous capables d'être des gagneurs d'âme. Qu'on en gagne 10 000 ou qu'on en gagne une, c'est la même récompense devant Dieu. Parce que pour un seul pécheur qui se repent, ça vaut mieux que 99 justes qui n'ont pas besoin de Dieu. Alors, il y en a que ça va être d'aller, littéralement, physiquement, d'aller outre-mer, d'aller rejoindre les nations. Il y en a que ça va être de prier. Parce que vous savez, s'il y a des gens qui aident, personne qui prie, ça n'accomplira pas grand-chose. Donc, il y en a qui sont appelés à aller, d'autres c'est de prier. Et d'autres, ça va être d'envoyer avec vos finances. Le Seigneur vous prospère, vous donne des finances, vous donne d'être à l'aise, d'être capable de faire de l'argent. C'est ce qu'il veut, vous déverser vos finances aussi, votre argent, dans son royaume. Parce que vous savez comme moi que pour aller, ça prend des sous aussi. Alors, on peut envoyer des gens, on peut prier, puis on peut aller soi-même. Alors, si on veut vraiment être approuvé par le maître de la moisson, parce que c'est ça un jour que le Seigneur va nous demander, qu'est-ce que tu as fait avec le nom de Jésus? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu savais de mon fils Jésus? Est-ce que tu l'as partagé? Parce qu'il y a trop de monde, chaque jour, chaque instant, ils traversent dans l'éternité. Ils ne peuvent pas revenir, là, c'est fini pour eux. Ils traversent dans l'éternité sans connaître Jésus. Dans laquelle nous avons la vérité en nous. Nous sommes capables de les conduire au Seigneur. On n'a pas besoin des grands cours de théologie. On a besoin d'être sensible au Saint-Esprit. On a besoin d'entendre la direction quand il nous dit « va vers une telle personne ». Puis dépendre sur lui, se fier sur lui qui va nous donner les paroles de vie parce qu'il est la vie éternelle. Alors, il va vous donner les paroles de vie. Il s'agit que nos cœurs soient sensibilisés à la cause, aux grands besoins. Qu'on soit ouvert à lui, qu'on soit disponible à lui, qu'on soit revêtu de cette puissance pour être des témoins fidèles, des témoins efficaces. Et ainsi, le maître de la moisson va vous approuver. Imaginez arriver au ciel et être approuvé par le maître de la moisson. Il va dire, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton Père. Alors, ce n'est pas forcément long ce matin, mais c'est des choses sur lesquelles le Seigneur veut qu'on se penche. Il veut qu'on sonde nos cœurs. Il veut vraiment qu'on regarde où sont nos priorités. Si on a mis d'autres choses en priorité, on va changer nos priorités dès ce matin. On va faire de notre priorité numéro un d'être des gagneurs d'âme, d'être à la recherche de cette brebis qui est perdue. Alors que le Seigneur nous bénisse. Et Patrick, si tu veux venir pour nous faire de la musique douce, on apprécie ça beaucoup. Alors que le Seigneur sonde nos cœurs ce matin, on veut le laisser sonder nos cœurs. Je vous demanderai de vous lever. Puis on va vraiment laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs ce matin, faire ce qu'il veut faire, changer nos priorités, nous rendre sensibles à son esprit, que ses désirs soient notre désir aussi. Alors, s'il y a quelqu'un ce matin, parce que chaque dimanche matin, on fait toujours une invitation au salut, parce que ça se peut qu'ici ce matin, il y a une âme de perdue, il y a une brebis perdue, mais vous savez, le Seigneur Jésus vous aime, Dieu le Père vous aime, et il vous a emmené ici peut-être ce matin pour celui-là. Il savait ce rendez-vous divin. Parce qu'il veut, même ces 99 brebis, c'est qu'il lui appartient. C'est une brebis de perdu, c'est une de trop. Alors, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, ben là, moi j'ai écouté tout ça, puis il y a des gagneurs d'âme, je suis quand même certain ou certaine moi-même de lui appartenir. Je ne sais pas si j'ai vraiment la vie éternelle. Alors, s'il y a quelqu'un comme ça ce matin, je vous demanderais de fermer vos yeux. Et puis, s'il y a quelqu'un comme ça, juste de lever la main, de me laisser savoir que quelqu'un ici qui veut accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur ce matin. C'est quelqu'un qui ne le connaît pas ce matin, qui désire le connaître, qui désire entrer en communion personnelle avec lui. Mais c'est votre jour ce matin. C'est votre jour aujourd'hui. Ne laissez pas passer l'occasion parce que notre vie ne nous appartient pas. Elle est comme une vapeur. Alors, si quelqu'un, levez votre main puis on va prier avec vous. Puis on va faire à ce que le Seigneur va vous rentrer dans sa famille. Et si on lui appartient, parce que je ne vois pas de main, donc c'est probablement qu'on est tous des enfants de Dieu ici qui sommes nés de nouveau. Il y a peut-être entre vous des personnes qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit, qui n'ont pas encore été dans la chambre haute. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'est donné à la Pentecôte, mais il faut le recevoir. Le Saint-Esprit ne reviendra pas à nouveau comme dans la Pentecôte parce qu'il a été donné une seule fois. À nous de le recevoir. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais reçu ce don. Le cadeau du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit afin d'être des témoins fidèles et puissants pour lui. Les apôtres en avaient besoin de leur temps. Jésus opérait pas avec moins que ça dans son ministère, qui était le Fils de Dieu. Alors, c'est quelqu'un ce matin qui a besoin du Saint-Esprit, de recevoir le baptême du Saint-Esprit pour être un témoin puissant et efficace. Je vous demanderai de vous avancer ce matin. Et si on est tous nés de nouveau, on a tous le baptême du Saint-Esprit, on a reçu un remplissage initial, mais vous savez qu'on a tous besoin de cette huile fraîche, d'une onction fraîche qui vienne sur nous pour que le Seigneur nous saisisse à nouveau, pour que le Seigneur saisisse vos cœurs à nouveau, alors que cette huile puisse couler sur vous ce matin. Peut-être que vous avez fait d'autres priorités plus importantes que celles que le Père veut, que ce soit des gagneurs d'âme. Alors, si vous sentez ce matin que l'huile est un petit peu vieille, le Saint-Esprit va à nouveau mettre un flot sur vous, un désir puissant dans vos cœurs d'être des gagneurs d'âme. Il va vous rafraîchir avec une huile nouvelle qui vient d'en haut. Alors, si vous avez soit besoin du baptême du Saint-Esprit, vous avez besoin d'une huile fraîche, vous avez besoin d'un nouveau remplissage de lui pour être des témoins efficaces, avancez-vous sans gêne, parce que c'est l'onction qui détruit les jougs. L'onction est ici ce matin pour détruire vos jougs, détruire ce qui vous a retenu depuis trop longtemps. Si vous êtes malade, c'est le même Dieu, c'est le même Esprit. C'est le même Saint-Esprit, la même onction, le même flot qui opère par le même Saint-Esprit. Alors, que ce soit pour un besoin physique, que ce soit pour un besoin émotionnel, que ce soit pour un nouveau remplissage rafraîchi dans votre esprit, pour partir d'ici des témoins fidèles de lui, n'hésitez pas de vous avancer ce matin. N'hésitez pas de venir recevoir ce dont vous avez besoin. Et s'il y a des gens qui doivent quitter un peu plus tôt, c'est correct, on comprend, il y en a qui doivent aller au travail, des choses comme ça. Si vous devez absolument quitter, on vous demanderait de le faire dans la plus grande discrétion. Parce qu'on veut vraiment respecter le Saint-Esprit qui est ici ce matin. On ne veut pas l'attrister, parce que si on l'attriste, le seul qui peut travailler avec nous, on n'a plus rien de travailler avec. C'est le Saint-Esprit. On ne veut pas l'attrister ce matin. On veut lui donner libre cours de faire tout ce dont il veut faire ce matin. Alors, si vous devez quitter, faites-le dans un bref délai. Faites-le sans déranger. Puis, par respect pour ceux qui s'avancent, ceux de vous qui êtes assis là, on n'est pas ici pour regarder un spectacle. Soyez dans la prière afin que le Saint-Esprit rencontre les besoins. Parce qu'il y a des gens qui viennent, des fois, sont détruits, sont brisés dans leurs émotions. Ils ont besoin d'aide. Alors, quand on prie, quand on impose les mains, vous qui êtes assis là, vous êtes dans un esprit de révérence, de prière, d'expectative, que le Saint-Esprit se manifeste ce matin. Il va délivrer, il va guérir, il va vous rafraîchir ce matin. Et la gloire revient à lui seul. Alors, vous avez des besoins, avancez-vous ce matin, parce qu'il est ici pour rencontrer vos besoins, la personne du Saint-Esprit qui est ici.
Enseignemoi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.